Le marathon des mots présente une année 2020. Juillet. Baptiste Beaulieu. Lettre à l'enfant. Cher enfant, je t'écris d'une place qui n'est pas celle d'un oncle ou d'un parrain, mais qui n'est pas non plus celle d'un anonyme parmi la foule. Imagine-moi comme un ami de ta famille ou quelque chose de vaguement approchant. À la date où sera lu ce texte, tu fêteras sans doute tes 2 ou 3 premiers mois d'existence, mais sache que cela fait des mois, voire des années, que tu existes dans la tête de tes mères. Bien avant cette histoire de virus mortel, tu étais déjà dans leurs pensées, petit garçon ou petite fille, peu importe, mais déjà aimé. Tu n'as été que la matérialisation d'une attente qui posait, certains soirs de mélancolie, un sourire de pur bonheur sur leur visage. Peu d'entre nous peuvent se targuer d'avoir été un état d'âme 1000 fois renouvelé avant d'atterrir en ce monde. Un enfant, pour les femmes, comme tes mères, ça s'espère bien plus que cela ne se porte. Parfois je me dis que, s'il en était ainsi pour tous, nous verrions émerger un monde plus juste, où nous serions unanimement le fruit d'une espérance telle qu'il ne viendrait à l'esprit de personne de réfuter le miracle sublime que constitue en soi l'existence des enfants ici-bas. Bref. Puisqu'il s'agit de fêter la concrétisation d'un rêve, et que ce rêve serait en droit de s'interroger sur l'étrangeté de cette terre où il s'est fait chair et os et sang et émotions vivantes, il me semble opportun de rapporter 2 ou 3 vérités que tu te dois de savoir. D'abord, les pandémies mortelles, qui obligent 80% de la population mondiale à rester enfermée chez soi 2 mois durant, en ruinant l'économie et en précipitant quantité de gens vers la précarité, c'est très, très rare. Je voudrais pas que tu t'imagines que tout ça c'est normal, et que tu lâches l'affaire. Puisque c'est comme ça, je retourne dans le ventre de maman Amélie. Ensuite, le président américain ne devrait pas rester assez longtemps au pouvoir pour t'embêter encore quand tu seras grand. Avec un peu de chance, quand tu auras 12 ans, ce sera une femme noire, bisexuelle et séropositive, en fauteuil roulant, capable d'empathie, et qui ne passe pas ses journées sur Twitter à comparer avec les dictateurs nord-coréens la taille de son pénis. Tiens. En parlant de ça, n'oublie pas de demander à une de tes 2 mamans de t'expliquer qui était Benjamin Griveaux. Elles me remercieront plus tard. Enfin, sache aussi que ce n'est pas normal que des policiers tapent sur des gens dans la rue à cause de leur couleur de peau. Ça devrait pas arriver, mais ça arrive et avec un peu de chance, ça n'existera plus quand tu auras 16 ans. À notre époque, c'était à cause d'un truc un peu moche qui s'appelait le racisme. C'était comme le bisphénol qu'on trouvait dans le plastique, sauf que là, c'était dans les gens. Bref. Que la vie sur Terre est plus belle, bien plus belle que cette première année, à avoir été portée dans le ventre d'une de tes mères, pourrait t'avoir laissé l'imaginer. Et qu'il y a du bonheur, et beaucoup, beaucoup d'espoir pour moi, à te savoir exister et rendre aussi heureuse tes mères. Bien sûr, si, quand tu as 10 ans, la présidente de la République française est ta fille d'Atturner ou Jean-Marie Bigard, c'est que j'aurais eu tort quelque part. Mais c'est peut-être une bonne chose. Il faut... à chaque génération qu'un petit truc déconne et soit un peu moche, pour laisser les enfants comme toi refaire le monde en mieux. Et je ne doute pas qu'avec les mères fantastiques qui t'ont espéré, conçu, porté, mis au monde, aimé de tout leur cœur et élevé, tu seras de celles ou ceux capables de relever leurs manches face au chantier du monde des hommes. Parfois, je me demande ce qui m'a pris d'accepter d'aider tes mères dans cet immense projet qui est le leur et ne m'appartient en aucune façon. Car enfin, qui voudrait naître dans un monde pareil? Les êtres se font tellement de mal et en si peu de temps. Qu'est-ce qu'une existence humaine ramenée à l'échelle des temps cosmiques? À peine l'étincelle d'une pierre à briquet. Pourtant, les hommes ne trouvent-ils pas dans ce laps de temps moyen de se haïr, se détester, se blesser, s'écharper de 1000 et 1 manières? Ici, on tue, on frappe, on triche, on ment. Sans doute mes raisons sont-elles très égoïstes. Parfois, je me vois très âgé, entouré d'adolescentes et d'adolescents, mes petits-enfants. Et si l'envie leur prenait de me demander quel est mon meilleur souvenir de cette période de pandémie, comme j'aimerais partir d'un grand rire frais et répondre « Moi ? C'est quand j'ai donné mon sperme à des copines lesbiennes pour qu'elles deviennent maman. » C'est que, vois-tu, au-delà d'une forme de réciprocité logique et cosmologique à laquelle mon âme poétique adhère sensiblement, puisque j'aspire à devenir père un jour, je veux que personne n'oublie. Ce don, peut-on seulement appeler cela ainsi, je l'ai fait car, alors, la médecine française continuait de discriminer les couples de femmes lesbiennes. Combien de femmes ont vu, à l'époque, leurs projets s'envoler à cause des atermoiements gouvernementaux soumis aux aboiements des extrêmes droites et des religieux? Tu sais, un jour j'ai écrit un texte sur la beauté ambiguë de l'hôpital où l'humanité naît, où l'humanité vite meurt, où tout le monde est accueilli, où coexistent des services comme la gériatrie, la maternité, ou même les services d'aide médicale à la procréation. Puis je me suis souvenu, ce dernier service n'est ouvert qu'aux hétérosexuels. L'injustice de cette phrase me gifle. Tes mères viennent d'un monde, je viens d'un monde, où toutes les amours ne se valent pas. Un monde où des gens, au prétexte de cette grande cause qu'est la défense des enfants, cette grande cause qui ne les intéresse qu'à condition de pouvoir mettre des homosexuels dans la sauce, où des gens, donc, mobilisent des trésors d'énergie pour que les enfants de couples homosexuels n'aient aucun statut juridique, voire aucun droit suite au décès d'un de leurs parents. Le progrès technique n'est pour rien dans le désir d'enfant, hein ? Ce n'est pas parce que la procréation médicalement assistée existe que les mères t'ont fait exister dans le palais somptueux de leurs pensées les plus aimantes. Tes mères, comme beaucoup d'autres homosexuels, ont toujours voulu des petits. Mais l'hétéronormativité leur déniait même ce désir-là. Contester à un humain son désir d'être père ou mère, c'est ne pas reconnaître l'autre qui vous ressemble en lui. Nier ce sentiment, le jauger sur les plateaux télé entre hétérosexuels, en ricaner, défiler même dans la rue contre, c'était une injure faite à l'égard de tes mères et de toutes celles qui leur ressemblent, et pire encore, à l'être humain qui existe en elles. J'ai fait ce que j'ai fait. Car ces gens-là faisaient ce qu'ils faisaient. Car ces gens mettaient tes mères à la porte d'un mouvement du cœur universel, qui les abaissait au rang de sous-citoyennes. Non, non et non, le progrès technique n'est pour rien dans le désir d'enfant. D'ailleurs, tu me permettras ce petit aparté, mais des femmes capables de supporter stoïquement que des hétérosexuels non concernés jaugent et dissèquent H24 la réalité de leur vie et la validité de leurs espoirs, personnellement, je leur confierais mon gosse direct, si j'en avais un. Ce qui s'exprimait dans le désir d'enfant de tes mères, c'est notre humanité commune. Le jour approche où la société permettra aux femmes comme tes mamans de devenir parents. Peut-être sera-t-il même advenu à l'heure où ces mots seront lus. Et ce jour-là ne doit en aucun cas être vu comme celui d'une gratification faite aux couples de femmes. Encore moins la concession d'un groupe sociologique dominant à un autre sociologiquement dominé. Ce jour sera celui où tes mères seront reconnues à part entière dans notre humanité commune. Ce jour sera une fête de celles qui font date dans l'histoire du genre humain. Celle d'un droit civique nouvellement acquis et donc un grand pas pour l'humanité vers cet immense dessein dont je veux l'imaginer capable un jour. Ce jour sera celui où la société leur dira « Pardonnez-nous, nous comprenons, nous nous excusons et on vous accueille enfin. Entrez. » Quant à la question du père, c'est une fausse question, évacuons-la. Modifier anthropologiquement la filiation, ce n'est pas abolir la parenté, mais c'est, bien au contraire, ajouter encore davantage de filiation, mais différente et plurielle. Les transformations sociétales sont le fait humain par excellence. Faut-il être un âne batté pour croire qu'un géniteur fait un père ? D'ailleurs, les parents adoptifs le savent bien. Je ne serai pas là pour sécher tes larmes quand tu tomberas de vélo. Je ne serai pas là pour me lever la nuit chasser tes cauchemars. Je ne serai pas là pour la rentrée des classes. Je ne serai d'aucun sacrifice, d'aucune concession, d'aucun effort. Est-ce à dire que ton sort m'est indifférent ? Bien sûr que non. Mais être père, ce n'est pas cela. Notre histoire se limite à celle que je vais te raconter à présent, et au narratif que tu décideras plus tard de lui donner selon tes termes. Bref, venons-en maintenant à ma maigre contribution. Nous venions d'être confinés, à cause de ce virus mortel, et toute la société s'était arrêtée. Étant médecin, j'avais alors la responsabilité d'un centre Covid-19 et accueillais avec mes consoeurs et confrères, patient après patient, toute la détresse et l'anxiété d'une société rendue à l'état de nature. J'entends par là celui qui fait sauter le vernis de la civilisation et dévoile la vraie disposition des êtres. Tous ces gens apeurés, effrayés, en larmes, scotchés à leur poste de télévision et qu'aucun mot n'arrivait à apaiser, ils ne se sont jamais autant dévoilés qu'en portant des masques de protection. D'ailleurs, Aucun mot n'arrivait à apaiser nos colères de soignants. Je me souviens de ces collègues aides-soignants et aides-soignantes portant des sacs poubelles en guise de surblouse et de tout ce narratif héroïco-cucu mis en place par le gouvernement pour pallier ces erreurs. En nous traitant en héros, ils nous confisquaient le droit d'avoir peur et nous renvoyaient au silence. Un héros ne dit pas qu'il a peur. Il ne dit pas qu'il se chie dessus. Il ne dit pas qu'il préférerait une blouse, masque, plutôt que des louanges grotesques. Héroïser, c'est silencer. En tant que romancier, je porte une attention toute particulière aux mots, tu sais. Et nous avons beaucoup entendu à l'époque des expressions comme « Ils partent au front. Ils sont en première ligne. C'est la guerre. » etc. L'héroïsation du personnel soignant était un narratif commode pour dépolitiser nos revendications et nous enfermer dans une posture intenable. Un héros, ça ne demande pas du personnel supplémentaire, ni ce truc un peu sale qu'on appelle des sous. En temps de guerre, on donne des ordres, en temps de crise sanitaire, on donne des moyens. Pourquoi crois-tu que le gouvernement avait choisi le champ lexical de la guerre ? Parce qu'il ne pouvait pas donner les moyens. Je me souviens. À l'époque, mes copines infirmières étaient les premières à utiliser le jargon de la guerre et celui de l'héroïsme. Comme elles me fendaient le cœur, alors. Elles n'étaient pas dupes, je pense, surtout les plus âgées d'entre elles. Je ne pouvais pas m'empêcher d'y voir aussi un mécanisme de défense du corps soignant qu'on envoyait travailler alors sans gants, sans masque, sans surblouse, sans test, ou alors avec des dispositifs périmés depuis 10 ans. Sans doute est-ce plus facile de se faire une raison quand celle-ci est épique. Alors qu'être juste un pion sacrifié sur l'autel de l'ultralibéralisme, ça ne fait pas sens. Mieux valait mourir en héroïne que mourir en pertes et profits d'un système qui place depuis tellement longtemps la valeur argent devant la valeur humaine. Puis, au-delà de ça, l'héroïsation avait son utilité politique. Ce discours de propagande guerrière ne servait qu'à préparer les consciences à ce qu'on appelle une économie de guerre et donc à rogner sur les droits des travailleurs et les acquis sociaux au prétexte qu'il faut redresser l'économie. Ça leur permettrait de museler toute opposition politique, puisqu'en temps de guerre, on n'a pas des opposants politiques, mais on a des lâches et des traîtres à la nation. Un virus ne fait pas la guerre. Il vit sa vie de virus. Ce qui avait déclaré la guerre à l'humain, c'était le démantèlement de l'hôpital public. Bref, je m'égare un peu, mais par ces quelques mots, peut-être saisiras-tu l'état de grande agitation et de grande colère dans lequel les circonstances m'avaient jeté. Aussi, lorsqu'un soir, éreinté, je décrochais le téléphone et papotais 2 minutes avec tes mères, apprendre que leur rêve était sur le point de se briser pour des raisons financières et de fermeture des frontières, j'ai eu mal pour elles. C'était dans une époque injuste, ajouter du malheur au monde, et cela, je ne l'acceptais pas. Des gens mouraient. Il fallait que le rêve de tes mères vive. J'ai dit que je les aiderais. Tu es sûr ? J'ai répondu oui. Et, crois-moi, je n'avais jamais été aussi certain de quelque chose. Bien entendu, nous en avons longuement discuté, mais ma décision était prise. Et plus j'y réfléchissais, plus elle semblait absolument logique. Nous avons attendu quelques jours, et quand le petit dieu des ovulations s'est manifesté, elles m'ont appelé. « Si tu es toujours d'accord, c'est aujourd'hui !» Je terminais mes consultations à 19h. J'ai sauté sur ma bicyclette et traversé cette ville déserte, dans une ambiance de mort, de fin du monde ou de peste, je ne sais pas trop. J'étais seul, oui, seul au monde. Toute l'humanité non-soignante était confinée, cloîtrée chez elle. Ce fut, paradoxalement et très égoïstement, un moment de grande exaltation. J'avais mes écouteurs sur les oreilles, je ne pédalais pas, je volais. J'avais la ville pour moi. À 19h30, j'arrivais chez tes mères. Elles étaient si heureuses, mon Dieu, c'était un baume au cœur. Un peu de lumière dans ce cloaque crasseux qu'était devenu le monde. Elles m'ont donné un petit pot stérile et sont allées dans le jardin pendant que je gagnais les toilettes. Les détails pourraient choquer. Personnellement, je n'ai jamais compris tout ce tabou autour de la masturbation, si ce n'est peut-être parce qu'elle reste l'un des rares plaisirs gratuits ici-bas et que, comme tout ce qui est de ce genre-là, il convient de le criminaliser d'une façon ou d'une autre. La vie est courte, et les occasions de se masturber trop rares. Nous devrions jouir plus. J'ai pensé à un beau garçon poilu. J'ai pensé à la vie. J'ai pensé à tout ce qui arriverait après. J'ai pensé à l'existence qui serait la tienne. J'ai pensé combien tu aurais une chance folle de naître entouré de ces deux femmes formidables. Je ne sais pas trop si c'est important, mais sache que j'ai pris un plaisir fou ce jour-là. Ce fut l'une des meilleures masturbations de ma vie, et je pense que les circonstances morbides qui nous cernaient n'y étaient pas étrangères. J'avais pris soin de m'hydrater beaucoup et de ne plus fumer 3 jours durant. J'ai toujours eu le souci du détail. Quand j'ai eu fini, vite, vite, j'ai couru au jardin. Le pot est sur l'évier, les filles. Elles étaient si heureuses. Vite, vite, elles se sont dépêchées de rentrer et je me suis dépêché de partir. La suite leur appartenait et ma contribution s'arrêtait là. Sans doute encore ces détails choqueraient certaines personnes. Ils sont pourtant la réalité de ce que vivent tant de couples ici en France. Et c'est pour cela que je m'interdis de les taire. On appelle cela une insémination sauvage et elle est criminalisée. Pourtant, il n'y a rien de sauvage là-dedans, je te promets. De la douceur, oui. De l'autodétermination aussi. En remontant sur mon vélo vers 19h58, je me suis demandé « Est-ce que le monde est différent maintenant ?» Non, il ne l'était pas. Pourtant, j'avais la conviction chevillée au corps d'avoir accompli l'un des actes les plus beaux et naturels de ma vie d'homme. Vive l'amour et vive les mamans. Ce monde manque cruellement de mamans, de toute façon. Pourtant, vraiment, s'il y a bien une chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'était bien cela. D'un seul coup, tous en même temps, les gens se sont mis à la fenêtre et ont applaudi. Voilà la fin de mon histoire, mais aussi son climax. Un vendredi soir sur la Terre, en pleine pandémie mortelle, il est 19h59 et les rues sont désertes pour cause de virus tueur. Je rentre de chez mes copines lesbiennes, dans les toilettes desquelles je viens de laisser un petit don pour qu'elles deviennent maman. Je pédale, je pédale, je pédale, la tête ailleurs, et tout à coup, tout le monde, toute la ville, se met à la fenêtre pour applaudir. Des applaudissements pour les soignants, certes, mais je préfère ma version de l'histoire, où j'ai levé les mains et, rempli de fausse modestie, ai pris un air candide. « mais non, c'était rien du tout, je vous assure, arrêtez, vous allez me faire rougir. » Bon, je ne sais pas pédaler sans les mains. Enfin, si, dans l'absolu, je sais, mais ça finirait sans les dents. Mais si je savais, sans mettre en danger ma dentition, j'aurais levé les deux mains, tel Usain Bolt, après un 100 mètres. Je te laisse la licence poétique de choisir lequel des gestes, moi m'étant masturbé ou tes mères te convoquant en ce monde, ces gens plébiscitaient. Mais toute la ville s'y est mise. Et que ça claque dans leurs mains, et que ça tape sur des batteries de cuisine. Une mamie en peignoir rose et bigoudi bleu fouettait un cul de casserole à coups de louche. Elle m'a souri. Merveilleusement souri, je veux dire. Félicitations, qu'il semblait dire, ce sourire. Avant de décrire ces mots, je ne pensais pas trouver grand-chose de drôle à raconter à propos du Covid-19 et de cette épidémie. Les gens n'en retireront aucune leçon. On sera tous aussi cons qu'avant. Les gens morts le resteront et les endeuillés cuveront leur chagrin dans leur coin. Les morts restent morts, toujours. Il n'y a que la vie qui continue. Enfin, je ne sais pas trop si je peux te donner des conseils, vu que ma contribution à ton existence et plus encore à ta formation en tant qu'être sensible aura été plus que limitée. Mais si je ne devais te donner qu'une seule instruction, alors ce serait celle-ci. Aime tout le monde, quitte à te tromper. Et considère les autres. C'est important, ça. Dans un monde qui va trop vite, on considère trop peu. Ne laisse personne en dehors du champ de ton humanité. Mais ne te laisse pas marcher dessus non plus. Et si tu es une petite fille, apprends vite à savoir viser les testicules. Et aussi, n'oublie jamais que « non » est une phrase complète qui n'a besoin d'aucun développement ni d'aucune justification. Lave-toi bien les dents, obéis à tes mères, rappelle-toi que tout est politique et ne tue pas les petits animaux. Sois une personne gentille. Je t'embrasse et laisse la porte ouverte. Baptiste.